L'ère du jeu, Anne-Catherine Bechtel. Expérience numérique 2, étouffement virtuel. Instant du quotidien d'une CM.
Respire.
J'étouffe. C'est une sensation vague, mais physique. J'essaye de poser ma respiration.
Respire.
Mais tous ces tweets, toute cette masse de posts, tout ça va trop vite. Je coule, je me noie, le flux est trop puissant. Et vos messages, vos commentaires, trop nombreux. L'eau monte toujours trop haut dans ce réchauffement numérique intime. Et l'on se noie malgré tout, malgré la force avec laquelle on nage, l'habitude du quotidien, malgré le fait aussi d'être rodé, de se refuser à montrer de la vulnérabilité. Je préfère jouer le jeu de l'assurance bourrue, parce que oui, on sait toujours ce qu'il faut faire. Exactement, en quelques secondes nous vient la réponse à l'urgence. C'est presque devenu une seconde nature de prendre des décisions aussi vite. Mais il faut distinguer. Il y a ce qu'il faut faire et ce qui vous blesse à le faire trop bien. Le planning avance et c'est comme un rouleau compresseur sur le tapis de ma vie. Je cours toujours. Je pourrais espérer que dans quelques jours, le coup de feu sera passé. Mais non, je sais très bien ce qu'il en sera demain, après-demain. Je peux élargir le temps professionnel puisque c'est encore la seule solution que je puisse contrôler. Charter encore davantage les postes. Diminuer le nombre de mots que j'écris, aller plus vite, mécaniser les process, bien que ma créativité en prenne un coup. Mais le temps de ma vie s'affaiblit, sa qualité s'amuit, et la fatigue prend une part de la place.
Respire.
Dors. Dormir est le seul moment de la véritable coupure. Il n'y a plus qu'à rentrer chez soi trop tard, ou à tout gérer à distance. C'est un fait auquel nous ne pensons plus. Le numérique ne s'arrête jamais. Ce n'est plus la bête humaine de Zola. Celle-là, elle avait encore une faiblesse. Il lui fallait sa dose de charbon, d'alimentation. À présent, l'alimentation des réseaux sociaux, c'est nous tous. Notre masse humaine. Nous postons, tweetons, réagissons, commentons. Zuckerberg et les autres ont lancé une machine sur laquelle ils ont une prise indirecte. Les logarithmes, la hiérarchisation, les tendances, les hashtags, c'est Zuckerberg & Co. Mais les créateurs de contenu, ceux qui mettent le feu à toutes les poudres polémiques, c'est nous. J'ai l'impression d'être face à une hydre à mille têtes, nourrie par les insomnies, les rages, les frustrations des uns et des autres. Il y a bien trop de têtes, et je ne suis pas Hercule. À partir de quand le numérique vous érafle ? À partir de quand l'ombre est-elle plus lourde à porter que la lumière d'une brève reconnaissance par les autres, par les likes et les cœurs qui vous apportent l'illusion d'exister et d'être important? Je n'ai malheureusement pas la réponse à cette question. Peut-être l'avez-vous? Mais lorsque je considère mon métier de community manager, je ne peux pas ne pas voir aussi, outre la possibilité de créativité et de stratégies multiples et complexes, la machine carnassière qui dévore les hommes dans une vie virtuelle au sens contestable. Il va falloir courir après les heures, les posts diffusés le week-end qui constituent une forme de saute-mouton prévisionnel jusqu'au lundi matin. Je sais bien que j'étouffe, même si la rythmique professionnelle prend, par réflexe, un tempo mécanique et que je deviens alors une machine à postes plurimédia. Je sais bien qu'au fond j'y arriverai, mais je sais aussi le mal que ça me fait. Pourquoi continuer ? Joker, c'est un peu simple d'invoquer la peur du lâcher-prise ou le goût du sacrifice. Évidemment que tant que je tiens la mesure, je contrôle la situation et que le contrôle c'est aussi ce qu'on nous apprend. On a peur de perdre en légitimité professionnelle en lâchant prise, de faire apparaître des faiblesses. Mais les faiblesses sont humaines. Je pourrais pourtant tout simplement abandonner. Un poste de plus ou de moins ne changera pas la face du monde numérique. Et l'objectif n'est même pas de nourrir un buzz. Qui vous a dit que l'objectif des institutions était le buzz ? Tout sauf ça, voyons. Tout ça, la relativité du sens de mon emploi, je les connais, je les sais intimement. Mais je cours quand même toujours après mon planning et les nouvelles urgences, ou ce que je considère comme tel, en me trouvant de bonnes raisons de le faire. Le service public, par exemple, la voix de l'institution. C'est un beau rêve, bien idéal, de donner une voix, d'incarner l'institution dans un monde de codage, presque un don quichotisme contemporain. Puis bon, si encore tous les communicants publics étaient d'accord sur la question. Oui, parce qu'il y a ceux qui croient que la parole de l'institution, c'est d'abord celle de l'élu. Les autres qui croient que politique et institution sont deux mondes avec des coupures nettes. Et moi, je crois que l'institution est toujours politique parce qu'elle traite de la vie de la cité, d'impulsions programmatiques portées par des instances démocratiques et incarnées par des élus et des services. Et beaucoup de choses peuvent avoir du sens pour faire société, faire communauté et prendre conscience qu'on peut vivre ensemble en se respectant. Mais mon institution idéale, elle est bien exigeante en matière d'incarnation virtuelle, et mes épaules parfois bien trop petites. J'ai l'impression d'errer dans le monde d'Alice au pays des merveilles. Parfois je suis trop grande, parfois trop petite pour survivre à ma vie virtuelle. Trop grande, je n'y vois qu'un abrutissement divertissant où le moindre poste de Jules bourré de fautes de français aura plus d'incidence et de réception que l'information sur Octobre Rose et le dépistage du cancer du sein. Parfois je m'y sens trop petite. Comment gérer autant de pages, ne rien oublier? Comment être une pieuvre numérique? Parfois aussi cet univers me rappelle le portrait de Dorian Gray, et je sais très bien le matin, lorsque je pose sur mon visage le vernis du maquillage, que c'est pour cacher l'ivresse d'une hyperconnexion. Mon portrait, c'est celui de la gueule de bois. Et ça se cache très bien puisque personne ne vous soupçonne cette addiction-là. Elle nous touche tous plus ou moins dès lors que nous possédons un smartphone. C'est simplement une déformation zélée et professionnelle. Il faudrait alors pouvoir tout éteindre, tout arrêter. Mais c'est presque impossible. Tout ne s'arrête jamais. Pendant ma coupure, l'info aura continué à se diffuser. D'autres nouvelles se seront créées d'elles-mêmes et la course aura continué. Alors il faudra tout rattraper. Le numérique est une tragédie pour l'humain à l'avance parce qu'il le domine. Il lui est supérieur. L'individu peut s'y révéler, mais s'y perdre aussi dans les nuées. Que ferait Antigone? Elle crierait non et bloquerait tous les comptes pour aller respirer. Mais pour combien de temps?
Respire.
Et d'ici lundi prochain, respirez bien et rendez-vous pour une séquence philosophie de comptoir sur le temps du numérique.